Chapitre 10. La prison à Sauveterre, c'est le château situé tout en haut de la vieille ville, au milieu d'un quartier pauvre et presque désert. Très important autrefois, le château de Sauveterre a été démantelé lors du siège de La Rochelle et il n'en reste plus que des débris maladroitement restaurés, des remparts dont les fossés ont été comblés, une porte surmontée d'un beffroi, une chapelle convertie en magasin militaire et enfin deux tours massives reliées par un immense bâtiment dont le rez-de-chaussée est voûté. Rien de moins triste que ces ruines entourées d'un mur tapissé de lierre, et jamais on ne soupçonnerait leur destination sans le soldat qui, nuit et jour, monte à l'entrée sa faction monotone. Des ormes séculaires ombragent les vastes cours, et sur les plateformes et dans les crevasses des murailles, il fleurit assez de ravenelles et de lilas de terre pour faire la joie de 100 prisonniers. Mais les prisonniers manquent à cette poétique prison. « C'est une cage sans oiseaux, » dit parfois le geôlier d'un ton mélancolique. Il en profite pour cultiver des légumes le long des préaux, et l'exposition est si favorable qu'il est toujours le premier à Sauveterre à cueillir des petits pois. Il en a même profité, avec l'autorisation de l'administration, pour s'attribuer dans une des tours un joli logement qui se compose de deux pièces au rez-de-chaussée et d'une chambre à l'étage supérieur, où on arrive par un étroit escalier pratiqué dans l'épaisseur du mur. C'est dans cette chambre que la geôlière, avec la promptitude de la peur, entraîna Mademoiselle Denise. La pauvre fille suffoquée, tant son cœur violemment battait dans sa poitrine, et, à peine entrée, elle se laissa tomber sur une chaise. « Jésus-Dieu !» s'écria la geôlière. « Vous trouvez-vous donc mal, ma chère demoiselle ? Attendez, je descends vous quérir du vinaigre. » « C'est inutile, » fit Mademoiselle Denise d'une voix faible. « Restez près de moi, ma bonne Colette, restez !» Forte et robuste commère de 45 ans, brune comme le pain bis, avec un épais duvet noir à la lèvre supérieure, Madame Blangin s'appelait Colette. « Pauvre demoiselle, » reprit-elle, « cela vous semble drôle de vous trouver ici ?»« Oui, très drôle, assurément. Mais où est donc votre mari ?» « En bas, faire le guet, mademoiselle, il ne tardera pas à monter. » Bientôt, en effet, un pas pesant retentit dans l'escalier, et Blangin apparut, pâle et l'œil trouble, comme un homme qui vient de courir un grand danger. « Ni vu, ni connu, dit-il, personne ne se doute de rien. Je ne craignais que ce mauvais chien de factionnaire, et juste comme mademoiselle arrivait, j'ai réussi à l'attirer derrière le mur en lui offrant la goutte. » Je commence à croire que je ne perdrai pas ma place. » Mademoiselle de Chandoré prit cette phrase pour une mise en demeure. « Eh, qu'importe votre place, » dit-elle, affectant une gaieté bien loin de son âme, « puisqu'il est convenu que je vous en assure une meilleure. » Et, ouvrant son sac, elle déposait sur la table les rouleaux qu'il contenait. « Ah, c'est l'or ?» dit Blangin, dont l'œil étincela. « Oui, chacun de ces rouleaux contient 1 000 francs, et en voici 16. » Une tentation irrésistible contractait les traits du geôlier. « On peut voir ? » interrogea-t-il. « Certes, répondit la jeune fille, vérifiez. » Elle se trompait. Blangin songeait bien à vérifier vraiment. Ce qu'il voulait, c'était repaître sa vue de cet or, l'entendre sonner, le manier. D'un geste fiévreux, il déchira les enveloppes et se mit à faire tomber les pièces en cascade sur la table et, à mesure que le tas grossissait, ses lèvres blêmissaient et la sueur perlait à ses tempes. « Tout cela est à moi ? » fit-il avec un rire stupide. « Oui, à vous, » répondit Mademoiselle Denise. « Je ne me figurais pas ce que pouvait faire 16 000 francs. Comme c'est beau, l'or ! Regarde donc, ma femme !» Mais la geôlière détournait la tête. Elle était aussi abrogante que son mari, et plus émue peut-être, mais elle était femme, elle savait dissimuler. « Ah, chère demoiselle, reprit-elle, jamais mon homme ni moi ne vous aurions demandé de l'argent pour vous rendre service si nous n'avions à songer qu'à nous. Mais nous avons des enfants. Votre devoir est de vous préoccuper de vos enfants, dit Mademoiselle Denise. » « Je sais bien que 16 000 francs, c'est une grosse somme. Mademoiselle regrette peut-être de nous donner tant d'argent. »« Je le regrette si peu, interrompit la jeune fille, que j'ajouterai volontiers quelque chose encore. » Et elle montrait un des quatre rouleaux restés dans son sac. « Alors, en effet, au diable la place !» s'écria Blangin. Et, grisé par la vue et le contact de l'or, « Vous êtes ici, chez vous, mademoiselle, » poursuivit-il. « Et la prison et le geôlier sont à vos ordres. Que désirez-vous ? Parlez. J'ai 9 prisonniers, sans compter M. de Boiscourant et Cheminot. Voulez-vous que je leur donne la clé des champs ?»« Blangin !» fit sévèrement sa femme. « Quoi ? Ne suis-je pas le maître de lâcher les prisonniers ?»« Avant de faire le fier, attends d'avoir rendu à mademoiselle le service qu'elle attend de toi. »«
C'est juste. »
Alors, insista la prudente geôlière, cache cet argent qui nous trahirait. Et, tirant de l'armoire un bas de laine, elle le tendit à son mari, qui y glissa les 16 000 francs, moins une douzaine de pièces qu'il garda dans sa poche pour avoir sous la main une preuve matérielle de sa fortune nouvelle. Et quand ce fut fait, et quand le bas, plein à craquer, fut remis au fond de l'armoire sous une pile de linge, « Maintenant, descends !» commanda la geôlière à son mari. « On peut encore venir, et si tu n'allais pas ouvrir dès qu'on frappera, cela donnerait des soupçons. » Époux bien dressé, Blangin obéit sans réplique, et aussitôt la geôlière entreprit de distraire mademoiselle Denise. « Elle espérait bien, disait-elle, que sa chère demoiselle lui ferait l'honneur d'accepter quelque chose. Cela la soutiendrait, et d'ailleurs l'aiderait à passer le temps, car il n'était que 7 heures, et ce ne serait qu'après 10 que Blangin pourrait la conduire sans danger à la cellule de M. de Boiscourant. « Mais j'ai dîné, objectait mademoiselle Denise, je n'ai besoin de rien. » L'autre n'en insistait que plus fort. Elle se rappelait bien, Dieu merci, les goûts de sa chère demoiselle, et elle lui avait préparé un bouillon exquis et une crème incomparable. Et, tout en parlant, elle dressait la table, ayant mis dans sa tête que, du mademoiselle Denise en périr, elle mangerait, ce qui est d'ailleurs une tradition de Saint-Onge. Du moins, les fastidieux empressements de cette femme eurent cet avantage qu'ils empêchèrent mademoiselle Denise de s'abandonner à ses douloureuses pensées. La nuit était venue. 9 heures sonnèrent, puis 10. Puis on entendit le pas de la ronde qui allait relever les factionnaires. Un quart d'heure après, Blangin reparut, portant une lanterne et un énorme trousseau de clés. « J'ai envoyé coucher Cheminot, dit-il. Mademoiselle peut venir. » Mademoiselle Denise était déjà debout. « Allons, dit-elle simplement. » Et à la suite du geôlier, elle traversa d'interminables corridors, puis une immense salle voûtée où les pas retentissaient comme dans une église, puis une longue galerie. Enfin, montrant une porte massive dont les fentes laissaient filtrer quelques rayons de lumière. « C'est là, » dit Blangin. Mais mademoiselle Denise lui prit le bras et d'une voix à peine distincte. « Attendez un moment, » dit-elle. C'est qu'elle était prête de succomber à tant d'émotions successives. C'est qu'elle sentait ses jambes fléchir et ses yeux se voiler. Son âme gardait toujours son admirable énergie, mais la chair échappait à sa volonté et lui manquait en quelque sorte. « Êtes-vous malade ? » interrogea le geôlier. « Que faites-vous ? » Elle demandait à Dieu de lui donner du courage et des forces. Et, sa prière achevée, « Entrons, » dit-elle. Et, avec un grand bruit de clés et de verrous, Blangin ouvrit la porte de Jacques de Boiscourant. Ce n'était déjà plus les jours, c'était les heures que comptait Jacques de Boiscourant depuis qu'il était au secret. Il avait été écroué le vendredi matin, 23 juin, et on était au mercredi soir, 28. Il y avait donc 132 heures que, selon la terrible expression d'Hérault, il avait été vivant, rayé du monde des vivants et muré dans la tombe. Aussi, chacune de ces 132 heures avait-elle pesé sur son front autant qu'un mois entier. Aussi, en le voyant pâle et amaigri, les cheveux et la barbe en désordre, les yeux brillants de fièvre comme des charbons mal éteints, eut-on eu peine à reconnaître l'heureux et insouciant châtelain de Boiscourant, ce benjamin de la destinée, à qui toujours tout avait souri, ce fier et sceptique garçon qui, du haut de son passé, défiait l'avenir. C'est que, de tous les supplices imaginés par les sociétés obligées de se défendre, il n'en est pas de plus effroyable que le secret. C'est qu'il n'en est pas qui, plus promptement, détrempe les énergies, désarticule les volontés et réduise les plus indomptables organisations. C'est qu'il n'est pas de lutte plus émouvante que la lutte qui s'établit entre un prévenu innocent ou coupable et un juge inexorable ou clément, où l'on voit un homme sans défense se débattre contre un autre homme armé d'un pouvoir discrétionnaire. Si les grandes douleurs n'avaient pas leur pudeur, Mademoiselle Denise se serait informée de Jacques. Rien ne lui était plus facile. Et si elle se fût informée, elle eût appris par Blangin, qui gardait et épiait M. de Boiscoran, et par la geôlière qui préparait ses repas, par quelle phase il avait passé depuis son arrestation. Anéanti sur le premier moment, il n'avait pas tardé à réagir, et le vendredi et le samedi, il s'était montré tranquille et plein de confiance, causeur et presque gai. Le dimanche lui avait été fatal. Conduit à Boiscoran entre deux gendarmes pour la levée des scellés, il avait été, le long du chemin, accablé d'injures et de malédictions par des gens qu'il avait reconnus, et il était rentré mortellement triste. Pendant toute la journée du lundi, il avait été torturé par le juge d'instruction, et, après 6 heures d'interrogatoire, quand on lui avait apporté son dîner, il avait dit que sa santé n'y résisterait pas et qu'autant vaudrait le tuer tout de suite. Le mardi, il avait reçu la lettre de Mademoiselle Denise et y avait répondu. Ça avait été pour lui le sujet d'une extrême agitation et, pendant une partie de la nuit, Frumence Cheminot l'avait vu se promener dans sa cellule avec les gestes et les imprécations incohérentes d'un fou. Il espérait un mot pour le mercredi. Ce mot n'étant pas venu, il était tombé dans une torpeur glacée dont M. Galpin d'Aveline n'avait pas pu le tirer. Il n'avait rien pris de la journée qu'une tasse de bouillon et un peu de café. Et le juge parti, il s'était accoudé à sa table en face de la fenêtre et il y était resté immobile comme une statue, les lèvres pendantes, le regard hébété, si profondément enfoncé dans ses rêveries qu'il ne s'était pas dérangé quand on lui avait monté de la lumière. C'est ainsi qu'il était encore quand, un peu après 10 heures, il entendit grincer les verrous de sa porte. Déjà, il était assez au fait de la prison pour en connaître les usages. Il savait à quelles heures on lui apportait ses repas, à quel moment Cheminot venait mettre en ordre sa cellule et quand, enfin, il devait s'attendre à voir paraître le juge d'instruction. La nuit venue, il s'appartenait jusqu'au lendemain. Donc, une visite si tardive annonçait immanquablement un événement insolite, la liberté peut-être, cette visiteuse qu'implorent tous les prisonniers. Aussi se dressa-t-il. Et dès qu'il distingua, dans l'ombre, le rude visage de Blangin, « Que me veut-on » demanda-t-il vivement. Blangin salua. C'était un geôlier poli. « Monsieur, répondit-il, je vous amène une personne. » Et s'effaçant, il livra passage à Mademoiselle Denise, ou plutôt, il la poussa dans la chambre, car elle semblait avoir perdu la faculté de se mouvoir. « Une personne ?» répétait M. de Boiscoran. Mais le geôlier ayant élevé sa lanterne, le malheureux reconnut sa fiancée. « Vous » s'écria-t-il, « ici ?» Et il se rejeta en arrière, tremblant d'être dupe d'un rêve, d'être le jouet d'une de ces effrayantes hallucinations qui précèdent la folie et qui se fixent dans les cerveaux malades comme les orfraies au milieu des ruines. « Denise » murmura-t-il encore, « Denise !» Quand il se fut agi, non de sa vie, elle n'y pensait pas, mais de la vie de Jacques, la pauvre fille n'eut pu articuler une parole, tant l'émotion serrait sa gorge et contractait ses lèvres. Le geôlier répondit pour elle. « Oui, fit-il, mademoiselle de Chandoré. » À 7 heures, dans la prison, elle avait quelque chose d'important à vous communiquer, elle est venue me trouver. « Oh, Denise !» balbutia Jacques. « Ami incomparable !»« Et j'ai consenti, poursuivait Blangin d'un ton paterne, à l'introduire secrètement. C'est une grande faute que je commets si cela venait à se savoir. Mais on a beau être geôlier, on a un cœur comme tout le monde. Si je dis cela à monsieur, c'est que mademoiselle oublierait peut-être de le prévenir. Si le secret n'était pas bien gardé, je perdrais ma place et je ne suis qu'un pauvre homme, j'ai femme et enfant. » Vous êtes le meilleur des hommes, s'écria M. de Boiscourant, bien éloigné de soupçonner le prix de la sensibilité de Blangin. Et le jour où je serai libre, je vous prouverai, mon brave, que vous n'avez pas obligé des ingrats.
Bien à votre service, monsieur, fit modestement le geôlier.
Mais peu à peu, Mademoiselle Denise reprenait possession d'elle-même.
Laissez-nous, mon ami, dit-elle doucement à Blangin.
Et dès qu'il se fut retiré, sans laisser à M. de Boiscourant le temps de prononcer une parole,
Jacques, murmura-t-elle, mon grand-père m'a dit qu'en venant à vous, seul, en secret, la nuit, je m'exposais à diminuer votre affection pour moi et à amoindrir votre estime.
Ah, vous ne l'avez pas cru ?
Mon grand-père a plus d'expérience que moi, Jacques. Pourtant, je n'ai pas hésité, me voici, et j'aurais bravé bien d'autres périls, parce qu'il s'agit de votre honneur qui est le mien, de votre vie qui est la mienne, de notre avenir, de notre bonheur, de toutes nos espérances ici-bas. »
Une joie délirante avait comme transfiguré le visage du prisonnier.
« Grand Dieu ! S'écria-t-il, un tel moment rachèterait des années de torture. »
Mais Mademoiselle Denise s'était jurée, en venant, que rien ne la détournerait de son œuvre.
« J'en atteste la mémoire de ma mère, Jacques, continua-t-elle. Jamais une seconde je n'ai douté de votre innocence. »
Le malheureux eut un geste désolé.
« Vous, dit-il, mais les autres, mais monsieur de Chandoré ? Serais-je donc ici s'il vous croyait coupable ? Mes tantes et votre mère sont aussi sûres de vous que je le suis moi-même. »
« Et mon père, vous ne m'en parlez pas dans votre lettre. »
« Votre père est resté à Paris pour le temps où il y aurait quelques démarches à faire. »
Jacques de Boiscourant secouait la tête.
« Je suis en prison à Sauveterre, murmura-t-il, accusé d'un crime atroce, et mon père reste à Paris. Est-ce donc vrai qu'il ne m'a jamais aimé ? J'ai toujours été un bon fils, cependant, et jamais, jusqu'à cette catastrophe effroyable, il n'a eu à se plaindre de moi. » « Non, mon père ne m'aime pas. »
Mademoiselle Denise ne pouvait le laisser s'égarer ainsi.
« Écoutez-moi, Jacques, interrompit-elle, écoutez pourquoi je risque cette démarche si grave et qui me coûte tant. C'est au nom de tous nos amis que je viens, au nom de Maître Folga, cet avocat de Paris que votre mère a amené et que vous ne connaissez pas, et aussi au nom de Maître Magloire, en qui vous avez tant de confiance. Tous sont d'accord. Vous avez adopté un système affreux. Vous obstiner à vous taire, c'est courir volontairement aux abîmes. Entendez bien ce que je vous dis. Si vous attendez pour vous disculper que l'instruction soit close, vous êtes perdu. Le jour où la chambre des mises en accusation sera saisie du procès, c'est en vain que vous parlerez. Il sera trop tard. Et vous irez, vous innocents, grossir la liste déplorable des erreurs judiciaires. »
C'est en silence et le front penché vers la terre, comme pour en dérober la pâleur, que Jacques de Boiscourant avait écouté Mademoiselle de Chandoré. Et dès qu'elle s'arrêta, palpitante,
« Hélas, murmura-t-il, tout ce que vous venez de me dire, je me l'étais déjà dit. »
« Et vous, vous êtes tu ?»«
Je me suis tu. »
« Ah, c'est que vous ne soupçonnez pas le danger que vous courez, Jacques. C'est que vous ne savez pas. »
Il l'interrompit d'un geste, et la voix sourde,
« Je sais, prononça-t-il, que c'est l'échafaud que je risque, ou le bagne. »
Mademoiselle Denise était pétrifiée d'horreur. Pauvre jeune fille, elle s'était imaginée qu'elle n'aurait qu'à paraître pour triompher de l'obstination de M. de Boiscourant, et que, dès qu'elle l'aurait entendue, elle serait rassurée. Et au lieu de cela,
« Malheureux ! S'écria-t-elle, ces épouvantables idées vous sont venues et vous persisteriez à garder le silence ?»«
Il le faut. »«
C'est impossible, vous n'avez pas réfléchi. »«
Pas réfléchi ? Répéta-t-il. »
Et plus bas,
« Que croyez-vous donc que j'ai fait depuis 130 mortelles heures que je suis seul dans cette prison, seul en face d'une accusation terrible et des plus effroyables éventualités ?»
« Voilà le malheur, Jacques. Vous avez été dupe de votre imagination. Qui ne l'eût été à votre place ? Maître Folga me le disait hier encore. Il n'est pas d'homme qui, après 4 jours de secret, ait tout son sang-froid. La douleur et la solitude sont de mauvaises conseillères.
Jacques, revenez à vous, écoutez vos amis les plus chers, dont ma voix vous transmet les conseils. Jacques, votre Denise vous en conjure, parlez.
Je ne puis.
Pourquoi ?
Elle attendit quelques secondes, et comme il ne répondait pas,
« Le premier des devoirs, insista-t-elle, non sans une nuance d'amertume. N'est-il donc pas, quand on est innocent, de faire éclater son innocence ?»
D'un mouvement désespéré, le prisonnier étreignait son front de ses mains crispées. Se penchant vers Mademoiselle Denise, si près qu'elle sentit son souffle dans ses cheveux,
« Et quand on ne peut pas, dit-il, quand on ne peut pas faire éclater son innocence ?»
Elle recula, pâle comme pour mourir, chancelant à ce point d'être réduite à s'appuyer au mur et fixant sur Jacques de Boiscourant des regards où montaient toutes les épouvantes de son âme.
« Que dites-vous, mon Dieu ? » balbutia-t-elle.
Il riait, le malheureux, de ce rire sinistre qui est la dernière expression du désespoir.
« Je dis, répondit-il, qu'il est de ces circonstances fatales qui confondent la raison, de ces coïncidences inouïes qui feraient douter de soi. Je dis que tout m'accuse, que tout m'accable, que tout témoigne contre moi. Je dis que si j'étais à la place de Galpin d'Aveline et qu'il fût à la mienne, j'agirais certainement comme lui. » « C'est de la démence !» s'écria Mademoiselle de Chandoré.
Mais Jacques de Boiscourant ne l'entendit pas. Toutes les amertumes des jours passés lui remontaient à la gorge. Il s'animait, ses joues s'empourpraient. Et toujours plus vite, en phrases haletantes,
« Faire éclater son innocence, poursuivit-il. Ah, c'est aisé de conseiller. Mais comment ?
Non, je ne suis pas coupable, mais un crime a été commis, et pour ce crime, il faut un coupable à la justice. Si ce n'est pas moi qui ai tiré sur Monsieur de Claudieuse et mis le feu au Valpinçon, « qui donc est-ce ?
Où étiez-vous, me dit-on, au moment de l'attentat ?
Où j'étais ? Est-ce que je puis le dire ? Me disculper, c'est accuser. Et si je me trompais ? Et si, ne me trompant pas, j'étais incapable de démontrer la réalité de mes accusations ? Est-ce que le meurtrier, est-ce que l'incendiaire n'a pas pris toutes ses mesures pour échapper au châtiment et le faire retomber sur ma tête ? J'étais averti. Il est des haines qui méditent de ces vengeances exécrables. Ah, si on savait, si on pouvait prévoir, comment lutter ? Et moi, qui, le premier jour, me disais, une telle imputation ne saurait m'atteindre, c'est un nuage que d'un souffle je dissiperai. Misérable fou, le nuage est devenu avalanche et je puis être écrasé. Je ne suis ni un enfant, ni un lâche et j'ai toujours marché droit au fantôme. J'ai mesuré le péril, il est immense. »
Mademoiselle Denise frissonnait. « Qu'allons-nous devenir ? » s'écria-t-elle.
Cette fois, M. de Boiscourant l'entendit et il eut honte de sa faiblesse. Mais avant qu'il réussît à maîtriser son trouble,
« Qu'importe, reprit la jeune fille, ces considérations vaines. Au-dessus des calculs les plus habiles et des systèmes les mieux combinés, il y a la vérité, invincible, immuable. Il faut dire la vérité, Jacques, sans arrière-pensée, sans restriction, sans détour.
Ce n'est plus possible, murmura l'infortuné.
Elle est donc bien affreuse.
Elle est invraisemblable. Ce n'est pas sans effroi que Mademoiselle Denise le considérait. Elle ne retrouvait en lui ni l'expression de son visage, ni son regard, ni le timbre de sa voix. Elle s'approcha et lui prenant la main entre ses petites mains blanches.
« Mais à moi, fit-elle, à moi, votre amie, vous pouvez la dire, cette vérité. »
Il tressaillit et reculant.
« À vous, moins qu'à tout autre, s'écria-t-il. »
Et comprenant ce que cette réponse avait d'affligeant,
« Trop pur est votre esprit, ajouta-t-il, pour de si honteuses intrigues. » Je ne veux pas que sur votre robe de noces rejaillisse une tache de cette boue où l'on m'a précipité. Fut-elle dupe ? Non, mais elle eut ce courage de sembler l'être.
Soit, poursuivit-elle, mais cette vérité, il vous faudra la dire tôt ou tard.
Oui, à mettre ma gloire. Eh bien, Jacques, ce que vous lui diriez, écrivez-le lui, voici des plumes et de l'encre, je porterai fidèlement votre lettre. Il est des choses qu'on n'écrit pas, Denise. »
Elle se sentait vaincue. Elle comprenait que rien ne ferait plier cette volonté glacée, et cependant...
« Mais si je vous suppliais, Jacques, reprit-elle, au nom de notre passé et de notre avenir, au nom de cet amour unique et éternel que vous me juriez... »«
Voulez-vous donc, interrompit-il, rendre mille fois plus atroce encore mes heures de prison ? Voulez-vous m'enlever ce qu'il me reste encore de forces et de courage ? N'avez-vous plus en moi aucune confiance ? Ne sauriez-vous me faire crédit de quelques jours encore ?»
Il s'arrêta. On frappait à la porte. Et presque aussitôt,
« Le temps passe !» cria Blangin par le guichet. « Je voudrais être en bas quand on relèvera les factionnaires. Je joue gros jeu. Je suis un père de famille. »«
Éloignez-vous, Denise !» dit Jacques vivement. « Éloignez-vous. La pensée qu'on vous surprendait ici m'est odieuse. »
Combien elle courait peu de risques d'être surprise, Mademoiselle de Chandoré avait payé pour le savoir. Pourtant, elle ne résista pas. Elle tendit son front à Jacques, qui l'effleura de ses lèvres, et, plus morte que vive, et se tenant au mur, elle regagna la chambre du geôlier. On lui avait préparé un lit, elle s'y jeta tout habillée, et elle y resta, aussi immobile que si elle eût été morte, plongée dans un anéantissement qui lui enlevait jusqu'à la faculté de souffrir. Il faisait grand jour, il était 8 heures, quand elle se sentit tirée par le bras.
« Chère demoiselle, lui disait la geôlière, le moment serait bien propice pour vous esquiver. On s'étonnera peut-être de vous voir seule dans les rues, mais on se dira que vous revenez de la messe de 7 heures. »
Sans mot dire, Mademoiselle Denise sauta à terre et, en un tour de main, elle eut réparé le désordre de sa toilette. Puis, comme Blangin, inquiet, venait voir si elle se décidait à partir.
« Tenez, lui dit-elle, en lui donnant un des rouleaux de 1 000 francs restés dans son sac. « Ceci est pour que vous vous souveniez de moi si j'avais encore besoin de vous. » Et, rabattant sa voilette sur son visage, elle sortit.